Les Racines du Futur, une émission pour écouter les Bauges.
J'ai grandi en Bauges et j'ai l'impression que les choses ont bien changé. Le nombre d'habitants, les paysages, le tourisme, l'agriculture, les paysans. 38 ans, c'est bien peu, mais comment a-t-on si vite changé? Tout avait l'air immuable. Est-ce une constante de toutes les enfances? Nous chantions ensemble et nous avons dû nous confiner. Alors j'ai eu envie de faire parler nos aînés. Comment c'était quand ils étaient petits? Comment le monde a changé? Ont-ils des regrets? Sont-ils heureux du monde d'aujourd'hui? Voici quelques partages. Merci à eux. Je suis allée interviewer Paul Verguin pour savoir ce qui avait changé dans les Bauges depuis son enfance. Il a préparé tout un travail qu'il nous livre en 3 épisodes avec sa femme Marie-Françoise qui complète parfois ses réponses. Bonjour Paul.
Bonjour Sophie.
J'ai une question avant que tu nous parles. J'ai préparé plein de choses sur les changements que tu as vus dans les Bauges. C'est peut-être de nous dire ton année de naissance.
Je suis né en 1942.
Et où?
Ça fait 79 ans. Je suis né, la maternité est à Aix-les-Bains, mais je suis né à l'Échrenne. J'ai toujours habité à l'Échrenne, donc j'ai pas eu de changement. J'habitais à côté de la rivière, le Chiran, le pont. Notre maison touchait la rivière, le Chiran.
Du coup, tes parents étaient d'ici, tes grands-parents aussi?
J'étais de commune voisine. Mon père était natif d'Alève et ma mère était native de Léchaud.
D'accord, ils ont décidé de s'installer à l'Échrenne.
Non, mon grand-père est venu installer la maison au bord de Chiran parce qu'il a créé une forge.
D'accord.
Allez. La forge qui, petit à petit, au cours des années, vers les années 1890-1895, il y a eu une extension vers la quincaillerie à ce moment-là.
D'accord.
Donc mon père a été... Il a pris le métier de forgeron et après, il a passé quincailler.
Ouais. D'accord. Il y a une époque où il y a eu énormément de forgerons dans les Bauges. Je crois qu'on en avait 16 au Noyer.
Tout à fait.
Et du coup, comment il y avait une forte demande sur tout plein de...
Parce que le matériel agricole de l'époque avait besoin de forgerons parce que les roues des chariots étaient cerclées en fer. Il y avait beaucoup d'utilisation du fer pour tout ce qui était agricole. Et surtout, souvent, ils faisaient maréchal fer en même temps parce que ça leur permettait de fierrer les bœufs et les chevaux à l'époque qui étaient les moteurs de l'époque.
Oui. Et petit à petit, du coup, ils sont passés à la quincaillerie. Ils ont arrêté la forge. C'était peut-être plus très rentable.
C'est-à-dire, ils faisaient des outils aussi. Mm-hmm. Ils faisaient des outils. Et puis, les gens avaient besoin d'objets de forge. Non, c'est pas que ce soit devenu rentable. C'est une extension. Les gens avaient besoin de produits que la forge, enfin, qui n'était plus de la forge, quoi. Ils ont eu besoin de produits transformés. Et c'est venu petit à petit. Je ne peux pas dire. Hein. Mon père, je n'ai pas pu bien en cause avec lui, puisqu'il est décédé. J'avais l'âge de 6 ans. Donc,
Du coup, c'est ton grand-père qui tenait encore la quincaillerie
quand
toi, tu as repris?
Non, mon grand-père est déjà décédé.
Alors, comment? Parce que toi, tu as été quincaillier.
C'est ma mère qui a continué avec, avec mes sœurs.
Elles ont tenu la boutique?
Oui, elles ont tenu la boutique. J'ai une de mes sœurs qui était jeune. Voilà. Ma sœur est née tout de suite après le décès de mon père. Il a fallu qu'elle aille en Sana. Mm-hmm. Elle a eu la tuberculose. Elle est restée longtemps en Sana. Et c'est ma sœur qui avait autour de 16 ans et demi, qui est venue seconder ma mère. Et toutes les deux se sont débrouillées pour faire la continuité de la quincaillerie.
D'accord. Ça devait pas être très commun, non, les femmes dans les commerces, ou est-ce que c'était quelque chose de surprenant pour les gens?
Pas
tant que ça.
J'ai pas eu l'impression que ça allait. Un petit peu, c'était un peu nouveau, mais il y avait, je pense qu'il y avait déjà des femmes qui tenaient des commerces d'alimentation ou autre, donc ça n'a pas été une surprise, pas vraiment une surprise. Ça s'est fait assez naturellement.
Et toi, alors, à quel âge t'as décidé de reprendre la quincaillerie?
C'était progressif. En fait, j'ai commencé tôt. J'ai travaillé dans une quincaillerie à Aix-les-Bains à 15 ans et demi.
D'accord. Tu étais encore jeune?
Oui, mais
jeune.
J'avais déjà passé mon CAP, j'avais déjà fait une année de comptabilité.
D'accord.
J'étais un peu en avance, quoi.
Et ça te disait bien, toi, de reprendre cette boutique?
C'est-à-dire, pas trop encore.
Ah oui.
J'étais entre deux, j'avais peur. J'avais peur du contact avec la clientèle à ce moment-là. Et j'ai fait 3 années d'apprentissage où je faisais des cours par correspondance en même temps. Alors les cours par correspondance, ça marchait très bien puisque j'avais déjà un bon niveau, niveau scolarité. Et après, j'ai passé mon CAP, quoi, de quincailler à Paris.
Ah oui, tu étais à Paris.
Ah oui.
On a l'impression que les Beaujus ne sortent pas de chez eux, mais en fait, vous étiez prêt à faire des kilomètres quand même pour aller vous former ou pour travailler?
Bon, on ne sait pas. Il y en a beaucoup qui ont été formés un peu à l'extérieur des Beaujes. Déjà à cette époque, nous c'était dans les années 60, non avant, c'est dans les années 42, dans les années 56, 57, 58, par là, ben, oui, il y en avait beaucoup déjà qui travaillaient sur Aix-les-Bains ou à la périphérie, hein, ou déjà vers Annecy ou Chambéry.
D'accord.
Non, il y en a déjà beaucoup. Hein.
Et après, tu es resté combien de temps à la quincaillerie alors de l'Échrenne?
Je sais pas.
Longtemps?
Je suis resté jusqu'à 64 ans.
D'accord.
Mais vraiment, l'Échrenne, j'ai travaillé un petit peu avant de faire l'armée. J'avais fini mon apprentissage, peut-être 6 mois avant l'armée. J'ai fait mon service militaire en 1900. J'ai commencé en 61, j'ai terminé au début 63, j'ai fait 18 mois. Et à ce moment-là, donc je me suis établi à la quincaillerie, puis j'ai arrêté en 2006.
Ouais. J'aimais bien quand on était petit. Quand j'étais petite, qu'on allait là-bas, tout était en bois, il y avait les beaux casiers. On pouvait acheter les clous, si on avait besoin de 5, on achetait 5 clous. On les pesait, hein, tu les vendais au poids, je crois.
Hein. Ça, oui, c'est ça.
Et c'est encore un peu le cas aujourd'hui.
Ben, je crois que mon successeur a bien suivi cet avantage vis-à-vis du consommateur. Quoi.
C'est ça. Et puis d'éviter les suremballages.
Il peut acheter des petites quantités à la demande, voire à l'unité.
C'est ça. Ça, c'est vraiment appréciable encore aujourd'hui.
Oui.
Et du coup, alors, quand je t'ai dit que je cherchais à interviewer un peu des gens, des Beauges, pour voir comment ils avaient vécu les changements de ces dernières décennies. Du coup, tu as préparé plein de choses, donc tu as plein de choses à nous dire. Et je vais te laisser la parole et puis je te poserai peut-être des petites questions entre deux.
Voilà. Faut pas hésiter à me couper.
Je te dirai.
Alors, ce que je voulais dire, je suis pas un historien, donc je peux pas donner de date exacte. Mais et puis je vais sans doute répéter ce que d'autres ont déjà dit, hein, ça c'est fort possible. Je vais quand même commencer par les avancées les plus importantes que j'ai observées au cours de ma vie, quoi. C'est surtout les années qui ont suivi la guerre, j'ai vu l'installation de l'électricité, beaucoup de foyers n'avaient pas l'électricité, et l'installation de l'eau dans chaque maison d'habitation, parce que beaucoup d'habitants n'avaient pas l'eau dans la maison.
Alors,
souvent, il y avait des bassins dans le village ou à proximité.
Et les gens allaient récupérer l'eau au bassin, ils se retrouvaient là-bas plusieurs fois par jour, j'imagine.
Ah ben, ils charriaient l'eau plusieurs fois par jour, oui. Ou il y en avait quel bassin devant la maison. Il y avait beaucoup de fermes qui avaient un bassin devant la maison.
Et l'eau des bassins était potable ou est-ce que les gens la faisaient bouillir pour être un petit peu tranquille?
Normalement, elle était potable hein, parce que l'eau, elle arrivait enterrée et ils s'étaient arrangés pour qu'elle soit potable. Je pense que la plupart, l'eau était quand même était pas mal.
D'accord. Il n'y avait pas de problème sanitaire lié à l'eau. C'était
non,
douteux, Marie-Françoise, c'est un signe.
Si on fait des analyses actuellement, on y trouverait des inconvénients, mais pour l'époque, c'était déjà pas si mal.
C'était déjà précieux d'avoir de l'eau courante. J'imagine que toute l'année, elle coulait sans problème.
Oui, c'était une.
Alors, Marie-Françoise nous fait une petite précision.
L'eau courante, vous aviez une source à proximité de la maison, puisque moi, quand je suis arrivé en 72, on allait encore chercher pour boire de l'eau à la source qui était entre la maison Belard et la quincaillerie. Quant à la, comment dire, l'état sanitaire, ça devait être variable, parce que dans les Bauges, moi quand je suis arrivé, ça me faisait rire, il y avait ce qu'on appelle des courses qui passent. C'est-à-dire, il y avait des dérangements intestinaux réguliers. Je pense que c'était dû
à l'eau. Et c'est l'État, du coup, qui a aidé à ce que tout le monde installe l'eau dans ses mises dans les foyers. J'imagine qu'il y a eu un grand...
C'est les mairies liées au département et à l'État, je pense. Je ne sais pas comment ça s'est fait. Là, j'étais trop petit. Mais souvent, l'État a donné des subventions aux communes pour qu'elles puissent s'équiper.
Oui.
Ça, c'était valable pour toutes nos communes de montagne, hein. Pas seulement les Bauges, mais les massifs autour, quoi.
Oui, c'est sûr que l'eau c'était un sacré progrès, l'eau, l'électricité.
C'est après la guerre qu'il y a eu un essor considérable dans la manière de faire et d'habiter, quoi.
Je voulais dire à ce sujet, moi personnellement, j'ai fait dans ma jeunesse des chantiers avec le Service civil international et je suis intervenue, enfin, bien sûr pas toute seule, avec d'autres, en Ariège. Et je me souviens, j'ai dû faire trois années de suite des chantiers là-bas. On faisait ce qu'on appelle de l'adduction d'eau. Et alors là, donc, c'était les communes qui faisaient, disons, appel à nous. Et puis, on a effectivement amené l'eau à des fermes particulièrement, parce que les communes ne pouvaient pas financièrement, ça faisait des trajets trop longs, quoi.
J'imagine que les gens ont vu ça comme un progrès, qu'ils étaient plutôt contents qu'on leur installe l'eau à la maison.
Moi, ces chantiers, je les ai faits entre 60 et 63.
C'est toujours pareil dans ce qui m'a frappé dans l'évolution. Je pense à l'essor considérable de l'automobile. Je peux citer un exemple. Quand j'étais petit, à l'école primaire, pendant l'hiver, on descendait en luge sur la route départementale du chef-lieu au pont de l'Échrenne. Sans inconvénient, puisqu'il n'y avait pratiquement pas de circulation. Si on croisait une voiture, c'était un maximum. Ceci est devenu impossible ou impensable dans les années qui ont suivi. J'ai connu aussi l'expansion formidable du téléphone, parce que à ce moment-là, il y avait seulement quelques points de téléphone dans chaque commune. Et les gens qui voulaient téléphoner, ils allaient à un point fixe où ils pouvaient le faire, quoi. Alors, après, ça s'est multiplié. Tout le monde se sont équipés. Et puis récemment, c'est l'Internet qui est venu aussi prendre une place considérable.
Alors aujourd'hui, à Internet, on a l'impression qu'on ne pourrait plus s'en passer. On ne sait pas comment on faisait avant sans Internet, parce qu'on a besoin d'un horaire, un numéro de téléphone, n'importe quoi. Hop, on cherche sur Internet. Mais comment... Moi, je suis toujours un peu sidérée sur le fait que ce soit devenu autant indispensable aujourd'hui. Comment on faisait avant pour connaître les choses Je sais pas.
On faisait, pour un numéro de téléphone, on prenait l'annuaire, quoi. Puis c'était tout. Ça allait aussi vite que l'Internet. On prend pas plus de temps. Quand c'était pas ordre alphabétique, ça va vite. On n'a pas l'impression qu'on perdait beaucoup de temps. Mais on n'avait pas autant de renseignements sous la main disponibles, c'est tout, quoi.
On faisait peut-être pas autant de choses.
On était moins compliqués, tout simplement. Voilà, mais je pense. Ensuite, j'ai vu une grande amélioration des routes, parce qu'avant, les routes, c'était... Ça commençait déjà à être goudronné, mais beaucoup moins, quoi. Ça a complètement changé dans les Bouges. Voilà. Ensuite, je pourrais parler un petit peu des équipements. Ce qui m'a beaucoup interpellé, ce que j'ai beaucoup observé, c'est l'équipement, la transformation des foyers et des ménages. Avec l'arrivée des nouveaux appareils, qui ont amené du confort, bien sûr, il y a eu la machine à laver, le frigo, le congèle, l'aspirateur, les lave-vaisselle et tous les petits appareils ménagers. C'était tout des choses qui n'existaient pas quand j'étais petit. Pour laver, les mamans allaient au bassin, quoi. Elles lavaient le linge au bassin. C'était une autre manière de faire.
Alors, je fais une parenthèse sur cette histoire de laver le linge entre femmes. On imagine toujours que ce sont les femmes, mais est-ce que c'était possible qu'un homme soit seul chez lui et qu'il ait besoin d'aller laver son linge, ou il y avait forcément une femme parce qu'il était forcément marié, ou une maman, ou une sœur, une cousine?
C'était un peu une tradition, je ne sais pas. Moi, j'ai vu surtout les femmes, parce que moi, j'avais déjà beaucoup... C'était des femmes autour de moi, donc j'ai vu les femmes.
Tu avais des sœurs, tu avais des sœurs.
Peut-être qu'il y avait des hommes qui le faisaient aussi, peut-être bien.
Marie-Françoise est sceptique.
Je ne sais pas, ton oncle qui était sur les chauds, qui était tout seul, c'est ta mère qui lui lavait le linge de temps en temps?
Oui, mais après le décès de ma tante.
Oui, après.
Parce qu'avant c'était ma tante.
Donc il y avait toujours, je pense que les hommes qui étaient seuls, ils avaient toujours une femme dans leur entourage, mère, cousine, sœur.
Une femme sous le coude.
qui assurait l'entretien du linge.
D'accord, ouais, c'est impressionnant parce qu'aujourd'hui, on sait bien que les hommes sont capables de faire les lessives, ils auraient pu laver au lavoir aussi.
Il n'y avait pas de machine à laver à une époque.
Oui, mais...
Il faut être conscient.
Ça, c'est sûr, mais ça aurait pu être aussi des hommes qui allaient au lavoir, mais j'imagine qu'il se passait d'autres choses. Peut-être les femmes étaient aussi contentes de se retrouver entre elles pour pouvoir discuter de choses.
Elles n'étaient pas toujours entre elles, elles étaient toutes seules.
Elles le faisaient à la maison, quoi. Elles s'arrangeaient. Il y avait des sources pas loin où plusieurs bassins, donc il n'y avait pas de lavoir ici.
Quelquefois elles se rencontraient, mais pas forcément.
D'accord.
Pas forcément. Enfin, nous, ici, moi, je n'ai pas vu forcément beaucoup de femmes en même temps au bassin, selon les besoins, quoi.
D'accord. Oui, tu dis c'était des bassins, mais pas des lavoirs.
Non, ce n'était pas des lavoirs.
On n'a pas vu. Non. Moi, je n'ai pas vu de lavoir ici. Il devait y en avoir, peut-être. Mais
oui, parce qu'il y a certains villages un peu dans l'Ain ou pas très loin, où ils ont des lavoirs bien abrités. Oui. On voit bien que l'espace La Vieille Pierre a été faite. D'accord. Et alors, du coup, tous ces changements, c'est arrivé dans les maisons petit à petit. C'est sûr que ça a changé le quotidien.
Ça s'est fait sur quelques...
Dans les années 50.
Ça a commencé après 50, 55, surtout. Voilà. Parce que les 5-6 années qui ont suivi la guerre, ça tirait. Les gens se sont équipés. Moi, je pense à partir 10 ans après la guerre, ça a commencé. Il a fallu que les gens se constituent un petit peu d'argent pour pouvoir le faire.
Et que les industries aussi s'organisent pour ça.
C'est surtout à partir des années 60 qu'il y a eu un essor important, je pense. Voilà. Ensuite, il y a eu la radio. La radio, d'abord, il y en avait déjà un petit peu pendant la guerre. Et puis après, tous les foyers se sont équipés avec la radio. Et puis par la suite, il y a la télé qui est venue compléter le nécessaire des ménages. ce que j'ai constaté aussi, c'est l'habitat s'est considérablement amélioré. Les maisons, les fermes ont été rénovées. On a vu de nombreuses maisons qui se sont construites au cours des décennies passées. On a vu aussi apparaître des lotissements et des immeubles.
Et oui, oui. Du coup, aujourd'hui, on ne voit plus, à part des gens qui transforment une vieille habitation ou une vieille grange, toutes les nouvelles constructions sont un petit peu décalées par rapport au niveau culturel, par rapport à notre patrimoine à l'ancienne, quoi.
Oui. Et là, sur les chrênes, les immeubles, lotissements, ça a commencé à la fin des années 70.
Oui.
Là, autour de chez nous, on était pratiquement la seule maison.
Oui.
C'était que des prés tout autour. Le premier immeuble qui a été construit, c'est celui de la Madeleine. Mmh. Et lui, il a été construit en 76, quelque chose comme ça.
Oui.
Et puis après, ça a été l'immeuble de Champ de Foire.
Oui, mais là, il est venu,
mais lui,
il
là, c'était en 80.
C'est allé vite, là, ces derniers temps.
Et
il y a...
après,
ouais.
Ça s'est accéléré.
Et moi, j'ai toujours envie de voir plus de prés et d'agriculture que d'immeubles, mais bon. Mmh. On retrouvera dans un deuxième épisode Paul et Marie-Françoise pour continuer d'évoquer les changements de vie dans les Bauges ces dernières années. Ces témoignages ainsi que les précédents sont disponibles en réécoute sur radioalto.info pour ceux qui ont internet. Vous pouvez aussi venir à la radio, on vous grave un CD ou on vous enregistre les émissions sur cassette pour écouter chez vous. À bientôt sur Radio Alto 94.8.